Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite l'histoire de France version coquine. Bonjour Alain Daguenot.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver.
Moi aussi.
Journaliste au Calais enchaîné, historien, le pouvoir érotise, c'est bien connu. On va découvrir grâce à vous quelques fantasmes de celles et ceux qui nous gouvernent ou nous ont gouvernés. Honneur aux dames. Pour commencer, à Catherine de Médicis, que demandait-elle régulièrement à ses dames de compagnie?
C'était un groupe de jeunes femmes magnifiques d'ailleurs qu'elle avait réunies pour deux raisons. La première, pour espionner les grands personnages du royaume qu'elle voulait contrôler parce que c'était en pleine guerre de religion. Et la deuxième raison, c'est qu'elle aimait beaucoup les femmes. Donc, les plus belles, elle les faisait déshabiller et elle leur envoyait, elle les faisait courir autour d'elle et elle leur envoyait, c'était son jeu, hein, son fantasme, elle leur envoyait des grandes claques sur les fesses.
Ah, j'imagine vraiment la scène là, je suis un peu troublée. Catherine de Médicis qui était jalouse aussi, comment fit-elle pour espionner les amours de son roi de mari? Réponse juste après la pause et on en a besoin sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Catherine de Médicis est devenue reine de France, une femme de pouvoir à la réputation sulfureuse.
RTL.
Ressaisissez-vous, venez à moi avec confiance.
Curiosité est un vilain défaut.
Cato la Borgnesse.
Elle était très laide. Elle avait un œil divergent. Elle a été choisie pour le déniaisage de Louis XIV.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Catherine de Médicis, le maréchal Pétain, Cato la Borgnesse. On explore les couloirs de l'histoire de France sur RTL et on regarde par le trou de la serrure pour découvrir les amours de nos rois et reines et quelques présidents et chefs d'État. Vous le verrez, c'est l'historien Alain Daguenot qui nous raconte. Alors on continue avec Catherine de Médicis, on est au XVIe siècle, son règne sera long et pour durer, vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, mais je voudrais qu'on détaille le rôle de cet escadron de beauté. Elle n'était pas là seulement pour se faire tapoter les fesses, elles espionnaient, mais comment ?
Ben, c'est-à-dire que Catherine de Médicis les envoyait, elles étaient choisies très belles bien sûr, elle les formait d'abord, notamment par exemple aux pratiques de l'avortement pour le cas où il y aurait un accident, et ensuite elle les envoyait auprès des uns et des autres. Alors une auprès du duc de Guise, une autre auprès d'Henri IV, alors Henri IV il n'y avait aucun problème, et auprès des uns et des autres.
C'était des espionnes en quelque sorte.
C'était des espionnes, des prostituées de luxe, des call girls, mais vraiment dans le but d'espionner ces grands pour mieux les contrôler. Catherine de Médicis était une femme assez curieuse, beaucoup plus libre que ce qu'on a représenté par la suite, parce qu'on l'a toujours représentée en noir. Mais par exemple, elle avait une pratique diplomatique sidérante. Excusez-moi si je fais des... par exemple, un jour, elle fait une grande réception au château de Chenonceau et elle avait exigé que tous les grands seigneurs s'habille en femme et les princesses en homme.
Ah oui, c'est drôle.
Et servie par des serviteurs et des serveuses nues. Et ensuite, bien sûr, ça générait des tas de rencontres.
Ah bah oui.
Et ensuite, ça se passait.
Ça donne des idées.
Ça donnait des idées. Et elle disait, comme ça, ils se battront moins.
C'était
ça
génial.
Ça n'a pas été le cas.
Oui, la théorie du genre avant l'heure. Catherine de Médicis, qui était l'épouse du roi Henri II, ils se sont mariés en 1533. Et elle a failli être répudiée. Pour quelle raison ?
Parce que elle ne donnait pas d'enfants à son mari. Et vous savez que lorsqu'il y avait des mariages comme ça, surtout avec une grande famille riche, c'était pour essayer avoir des enfants pour la dynastie. Et comme elle ne donnait pas d'enfants, donc là il y avait un souci. Donc ça ne pouvait pas venir du roi, qui bien sûr était tout puissant. Par bonheur, c'est la favorite qui a dit mais il y a un truc, c'est le sexe de Henri II qui ne fonctionne pas bien.
Ah.
Et
on l'a remplacée par le sexe d'un autre homme, non. C'est ça ?
Donc c'est alors, Diane de Poitiers, c'est ça, c'était elle la favorite.
Et il avait été dit, il avait son vite, en parlant d'Henri II, tort, qui n'était pas bien droit. Et donc,
Ça peut marcher quand même. Hein,
Oui, mais pour avoir des enfants, c'était peut-être un peu plus difficile. Donc, elle lui a expliqué simplement qu'il fallait qu'il se mette en dessous. Et puis,
attendez, on a
missionnaire inversé.
On a tous les détails.
Et donc, ils ont eu 10 enfants, c'est ça, en 12 ans ?
Ah oui.
Bon conseil.
Ça a bien marché après. Mais évidemment, il y a eu une sorte de ménage à trois qui s'est mis en place. Et Catherine de Médicis était jalouse. Elle voulait savoir comment ça se passait entre son roi de Marie et sa favorite Diane de Poitiers. Comment les fait-elle espionner, Alain Daguenot ?
Elle s'en était occupée elle-même. C'est-à-dire qu'elle avait fait percer, elle avait installé un appartement au-dessus de la chambre royale et elle avait percé le parquet d'un certain nombre de trous et elle observait ce qui se passait en dessous. Et elle disait, mais j'en ai marre, il lui fait des choses qu'il ne me fait pas à moi.
La curieuse, voilà, la curiosité bien récompensée. Alain Dagneau, vous publiez Les dessous croustillants de l'histoire chez Larousse. C'est tout ce qu'on n'a pas appris à l'école, bien sûr. Par exemple, de Pétain, on connaît le chef indigne de Vichy, le héros de Verdun. Et pourtant, où est-il ce 24 février 1916, quand le maréchal Joffre le fait appeler ?
Pétain a toujours dit, j'étais sur le front, j'étais prêt à me battre, allons-y. Bon, il n'était pas du tout là.
Il était sur les fesses plutôt que le front.
Voilà, en fait... Il avait pris une voiture du régiment avec son chauffeur et il s'était fait conduire à Paris, face à la gare du Nord, un hôtel qui existe toujours, c'est le Terminus Nord. Ouais. Et donc là, il avait pris une chambre et il était avec une jeune femme qui s'appelait Nini. Et son aide de camp, quand il a appris la convocation par Joffre, il a dit « mais il faut absolument le retrouver ». Par bonheur, il y avait eu quelques confidences. Il est arrivé, il a demandé, mais vous n'avez pas vu un général quelque part dans une des chambres? On lui a indiqué la chambre et puis qu'est-ce qu'il a vu? Notre Foch qui après s'est toujours défendu de cette histoire qui pourtant a été montrée et attestée par la dite Nini.
Le maréchal Pétain qui aimait les plans à trois et qui est resté vert, très très actif jusqu'à un âge avancé. C'est ce qu'on découvre dans votre livre Les Dessous croustillants de l'histoire. Et Louis XIV, qui l'a initié au sexe? On pense à Cato la Borgnesse, bien sûr. Et pourtant, dans un instant sur RTL, vous verrez comment Mazarin a lui aussi dépucelé le roi soleil.
RTL. La musique sur RTL, c'est ça. Des tubes. Et des standards. Et tous les week-ends, du live. On aime la musique sur RTL. RTL. De 14h à 15h, la curiosité est un vilain défaut. Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
On regarde sous les jupes et dans les pantalons l'histoire de France avec notre invité, le journaliste Alain Dagneau. On va raconter maintenant l'histoire de Louis XIV. On sait qu'il a été dépucelé par une certaine Cato la Borgnesse. Elle portait bien son nom.
Ah oui, elle était d'une laideur effroyable. Elle bavait. En plus de ça, elle n'avait pas de dents. Mais ça lui permettait d'avoir quelques pratiques justement qui étaient très, très appréciées. Et la reine-mère qui appréciait aussi une autre pratique de Cato la Borgnesse, c'est-à-dire les lavages au clistère dans les endroits que vous imaginez. Et donc, mais ça, c'était quelque chose qui se pratiquait.
C'est quoi le clistère, pardon ?
Un clistère, c'est une espèce de pompe pour nettoyer l'anus à l'intérieur. Et donc, la reine-mère adorait ça. Et elle s'est dit, mon fils... je ne le sens pas pour l'instant, il n'a pas l'air très tenté par les femmes. Pourtant, c'est Louis XIV, hein, le futur Louis XIV. Eh bien, je vais lui envoyer cette femme.
Et ça il avait quel âge, Louis XIV ?
Il avait 16 ans. Il a été effectivement dépucelé, ça s'est très bien passé, si on peut dire, puisqu'il a attrapé une blénorragie redoutable et très mal soignée. Et en plus de... Mais d'un autre côté, Cato la Borgnesse a obtenu le titre de baronne. Et un château en plein Paris, qui existe toujours d'ailleurs dans le Marais.
Ça valait le coup.
Mais oui. Quand on visite le château de Versailles, on n'a pas toutes ces infos. Hein. On n'imagine pas les clistères et tout ça.
Trop.
Heureusement, il faut lire votre livre, Les Dessous croustillants de l'histoire de France, Alain Dagneau. C'est publié chez Larousse. Et alors, on y découvre, et ça c'est plus difficile à entendre, que Mazarin n'était pas en reste. Qu'a-t-il fait subir au tout jeune Louis ?
Alors, ça a été révélé un peu plus tard. Et c'est connu maintenant parce que nous avons les lettres du valet de chambre du jeune Louis XIV qui, à cette époque-là, avait 14 ans. Et le valet de chambre, qui s'appelait Laporte, voit venir le jeune roi du bureau de Mazarin. Le jeune roi lui dit « Je veux prendre un bain ». Il le déshabille et, comme il dit, « J'ai constaté ». Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Son bain était tout prêt. Il arriva tout triste et j'en connus le sujet. Comme nous le déshabillons, l'attentat manuel qu'on venait de commettre sur sa personne parut visiblement. C'est joli comme expression. Mm-hmm. Parce que vous voyez, on a le problème, c'est que les historiens n'osent pas révéler ces lettres et tous ces documents. je les ai, ils sont là, mais les historiens n'osent pas.
Pourquoi ? Parce que ça parle de sexe, parce
oui,
que c'est.
Parce que ça parle de sexe.
Ça parle d'abus sexuels aussi ?
Ah non, même pas. Non. C'est parce que ça parle de sexe tout court. Et ça, ils n'aiment pas trop. Et dès qu'ils vont aborder quelque chose sur le sexe, ils disent oui, mais. Après, c'est d'autres histoires, c'est autre chose.
Mais le sexe, c'est important pour comprendre l'histoire de France. Est-ce que ça explique plein de choses de nos rois, de la monarchie, du pouvoir ?
Mais bien sûr, ça explique beaucoup de formes de pouvoir, justement, de prise de décision. Quand Henri IV a failli déclencher une guerre pour récupérer une gamine de 14 ans et qu'il a été assassiné pour ça, il y a vraiment des incidences. Et quand on voit DSK, pardonnez-moi, mais avec les problèmes que ça lui a posés, mais curieusement, ça n'aurait posé aucun problème il y a 3 siècles. Mmh. Au contraire.
Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Cette maxime, elle pourrait s'appliquer à un certain nombre de rois de France. Tiens, on va parler un peu de Charlemagne, qui fit voter une loi contre l'inceste. Et pourtant, il aura une liaison avec qui ? Avec sa sœur, c'est
ça ? De plusieurs années, ouais. Avec sa sœur Guilla. Mais là aussi, c'était un autre univers. C'est-à-dire que les uns et les autres étaient les uns collés aux autres. Et il y avait une relation au corps, surtout, bon, c'était des gens qui vivaient souvent nus ou ainsi de suite. Et donc, il y avait des relations très, très intimes et très fortes entre les uns et les autres. Ça a duré jusque pratiquement au 19e siècle. Et donc là, il a eu cette relation avec sa sœur. Mais comme il ne voulait pas qu'il y ait trop d'inceste et de relations plus ou moins illégitimes, ou en tout cas douteuses, eh bien, il avait interdit l'inceste.
Et par un édit ou par
oui,
une loi.
Oui, par un cartulaire. Ouais. Mais c'est comme Louis XIV, pardonnez-moi, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais Louis XIV a édicté une loi interdisant les maisons closes. Et comme les maisons closes étaient désignées par un bouquet de laurier, eh bien, ça a donné cette chanson populaire. Qu'est-ce que c'est déjà ? Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés.
Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà, ira les ramasser.
Eh bien, ça voulait dire tout simplement que les maisons closes
donc
étaient fermées.
Donc même nos comptines pour enfants parlent de sexe.
Oui. Exactement.
Il faut arrêter de cacher tout ça. Eh bien, on le dit au micro de la curiosité.
Bravo.
Et plus près de nous grâce à vous. Que savons-nous des saillies de nos présidents ? Révélation à venir dans un instant sur Jacques Chirac. A tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
Monsieur Chirac est demandé à la réception. Monsieur Chirac.
C'est pour moi ?
Non mais tu t'appelles Chirac, toi ?
Ben oui, Chirac, Patrick Chirac. Pourquoi ?
Et pourquoi tu ne changes pas de nom ?
Pourquoi c'est moi qui changerais ?
Je suis indigné.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Abracadabrantesque.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Voilà, du Patrick Chirac de camping au vrai, au Jacques Chirac qui nous passionne avec le journaliste et historien Alain Daguenau. Vous publiez Les Dessous croustillants de l'histoire. C'est un livre qui vous a demandé un long travail de recherche. Était-ce plus facile ou plus difficile quand vous vous êtes attaqué à nos derniers présidents de la République ?
Alors, de toute façon, ça a été un lourd travail de documentation, bien sûr, où je suis allé chercher des documents d'ambassadeurs, par exemple, ou des lettres, ou des confessions, par exemple. On parlait de Charlemagne, j'ai découvert ça dans les confessions qu'il avait données à un moine. Et puis, le moine n'a pas trahi la confession, non, mais simplement, il avait noté. Et on a retrouvé ces notes. Donc voilà comment des tas de choses peuvent être redécouvertes.
Et aujourd'hui, sur les contemporains, on va dire.
Aujourd'hui, on peut se fonder à la fois sur des lettres, parce qu'eux-mêmes écrivent beaucoup, sur leurs propres confessions, et sur, bien sûr, les confessions d'amis intimes, voire même, alors par exemple pour Jacques Chirac, son chauffeur.
Ah oui.
Qui a beaucoup raconté d'histoires.
Jean-Claude Laumont,
qui l'emmenait effectivement presque tous les soirs découvrir de nouvelles aventures.
Comment et par qui a-t-il été viré, ce chauffeur de Jacques Chirac ?
Alors, il a été viré par Bernadette, oui. Qui effectivement ne supportait guère les escapades de son mari, surtout pas quand c'était un chauffeur qui organisait les choses. Il y est resté longtemps, le chauffeur. Il a d'ailleurs son bouquin, puisqu'il a écrit un livre là-dessus, c'est 25 ans avec lui. Donc 25 ans d'aventure. Mais quand
c'est un peu sa vengeance, ce livre, parce que où est-ce qu'il a été nommé le chauffeur de Jacques Chirac après avoir été viré de son poste?
Bah, ils en ont fait un gardien de square.
Oh, c'est terrible.
Donc c'est un peu violent.
Il
ne
se passe pas grand-chose dans un square en plus. Le chauffeur,
si, mais bon, ça, c'est autre
oui,
chose.
La nuit. Le chauffeur de Chirac qui raconte notamment la passion de son chef pour une journaliste en 1974. Chirac est premier ministre et qui le rend à ce point fou?
C'est Jacqueline Chabridon, qui est une journaliste du Figaro, qui d'ailleurs avait beaucoup plu à Mitterrand. Et donc, lui était vraiment tombé amoureux. Le seul problème, c'est qu'il lui a écrit des lettres débordantes d'amour et de passion. Et ça a beaucoup inquiété. Alors d'abord, Bernadette lui avait dit, bon, n'oublie pas ce qui est arrivé à Napoléon. Quand il a renoncé à Joséphine pour Marie-Thérèse, et ben là, il a fini par perdre sa couronne. Donc, quoi, ça va t'arriver. Et elle avait été l'épouse de Charles Hernu, l'ancien ministre de la Défense.
Il va s'afficher avec elle, Jacques Chirac?
Alors, oui.
Avec
oui.
Jacqueline Chabridon?
Oui, mais pas trop quand même. C'était assez discret.
Ouais.
La seule chose, c'est qu'il lui avait envoyé des lettres torrides, si bien que ça avait inquiété Charles Pasqua et l'éternel Marie-France Garraud. Et il s'était dit, faut supprimer ces lettres, une fois que Jacques Chirac avait commencé à s'écarter un peu de Jacqueline Chabridon. Et ils ont envoyé une équipe des services dits secrets, qui n'étaient guère secrets, un jour où elle était en reportage à l'extérieur. Donc, il faut toujours faire attention quand tu es journaliste, quand on fait des reportages à l'extérieur.
Oui, si on couche avec le président, hein, parce que sinon, on doit être tranquille un peu, non?
Et ils avaient ramassé toutes les lettres. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce portrait de Jacques Chirac parce que, comme il disait, manger épicé, c'est bon pour le poum-poum, ou des choses comme ça. Il était contre l'emmerde-maître, comme il disait. Et il adorait les femmes qui avaient... C'est lui-même qui l'écrit, hein. Un frelon dans la petite culotte. Alors, dès que ça le faisait frémir et fantasmer, et ce brave Chirac, effectivement, ne pouvait pas se passer de Bernadette. Et à chaque fois quand même, bon, il la trompait, dit petit, mais il allait la voir, il demandait toujours « Où est Bernadette ?»
Et qu'est-ce qu'il répondait à ceux qui lui reprochaient justement d'être un coureur? C'était quoi sa formule?
Ah, c'était, attendez...
Cause toujours...
Oui, cause toujours mon lapin. C'était... Alors, il ne disait pas ça, il disait CTML. Cause toujours mon lapin.
CTML, et seuls les initiés comprenaient ce que ça voulait
à
dire.
À peu près, oui.
Merci beaucoup, Alain Daguenaud.
Merci.
Beaucoup d'autres révélations dans votre livre, Les Dessous croustillants de l'histoire, qui est publié chez Larousse.
C'est la fin de votre émission de Curieux, les amis. Vous pouvez nous podcaster sur rtl.fr pour nous faire découvrir à vos amis, grivois ou pas.
Bon après-midi à tous, on se retrouve. On retrouve demain à 14h au programme Monsanto, la multinationale. Pourquoi cette entreprise est-elle aussi puissante? Comment se défend-elle contre les procès?
Et puis on touchera du bois pour avoir la baraka en ce vendredi 13. On vous expliquera ce qu'est la chance.
Tout de suite, Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre.
RTL, il est 15h.
Il est 15h.
Vous écoutez RTL.